Première chose, je voudrais remercier vraiment toute l'équipe de louanges ainsi que la présidence d'Aurélien. Alors, je vous pose la question, comment ça va? Vous allez certainement me répondre, tout va bien. Moi, ce matin, j'étais un petit peu triste, pas ici dans l'église, mais à la maison. Et c'est difficile de porter un message quand tu es triste. Et cette tristesse, petit à petit, elle a changé. Quand j'ai vu Paul parmi nous, ça nous fait réjouir. Ainsi que Guylain, qui est parmi nous. Et puis, la rentrée de Macaire avec son épouse. Et je pensais vraiment comme l'apôtre Paul qui s'inquiétait de ce frère Timothée. Et une fois qu'il l'a vu, il a été fortifié. Cette tristesse a changé dans le sens que Dieu m'a fortifié pour porter ce message. Alors, il faut le dire quand ça ne va pas. Il ne faut pas le cacher. Ça arrive d'être triste. Mais cette tristesse, Dieu me donne la force de porter ce message. Alors, je rentre dans le discours qui est important, le message. Est-ce que ça vous arrive, quand vous étiez jeune, à jouer à cache-cache avec vos petits-enfants ou avec vos enfants, ou quand vous étiez jeune? Les jeunes ne jouent plus à cache-cache. Moi, à mon époque, je ne sais pas que j'étais vieux, mais je suis vieux, mais ce qu'on faisait avec mes potes, j'habitais dans une cité, soit on joue au football, soit on joue à cache-cache. Mais à cache-cache, ça a duré des heures et des heures. Alors ce matin, je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve dans le premier livre de la Bible. Alors, nous lirons au chapitre 3 et les versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà la lecture de ce matin. Voilà que l'homme et la femme ont commis, comme on entend tous les jours dans notre cœur, le péché. Et l'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Ils sont en train de jouer à cache-cache. « Où es-tu ?» L'homme et la femme se cachèrent. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps un théologien qui disait, « Attends, un Dieu si grand, un Dieu tout-puissant, qui voit tout, qui connaît tout, peut-il dire « Où es-tu » Voilà que tu es avec une personne qui lit la première fois la Bible et il passe dans ce passage et toi que tu lui dis à chaque fois « Dieu connaît toutes choses ». Comment tu vas lui répondre ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ben, certainement, nous allons prendre le psaume 139, que je voudrais lire ce matin avec vous aussi. Le psaume 139, versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Puis on va prendre le psaume 147. Et le verset 4, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. J'ai été voir sur le web pour voir combien d'étoiles il a sur l'univers. Ils ne savent pas compter tellement qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Et Dieu, lui, les connaît et leur donne un nom. Alors, comment peut-il dire « Où es-tu » s'il connaît toutes les étoiles? Comment il peut dire « Où es-tu, Adam, Ève ?» Alors, il faut relire ce verset 8. « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. » Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Il y a quelque chose qui est très important dans ce verset. On voit que Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et ici, parcourait veut dire que chaque soir, il parcourait ce jardin. Mais il parcourait avec qui ? Avec Adam et Ève. Chaque soir, il avait rendez-vous avec Adam et Ève. Ils avaient une relation intime. Ils se parlaient l'un et l'autre dans ce jardin. Un rendez-vous quotidien entre l'homme entre le Créateur et l'homme, une relation intime. Adam et Ève avec le Créateur. Comme un père avec son fils qui se promène. Myriam et moi, nous avons l'habitude, après le repas du soir, de faire une petite promenade. Et je parle beaucoup. Et allez l'écoute. Non, nous avons une relation en marchant et on discute. Il n'y a pas si longtemps, Mathieu apprenait à conduire et on était dans le quartier de Gouy. Et voilà que je vois un collègue qui parle avec des gens. Je dis, Mathieu, arrête-toi, je veux lui dire bonjour. Il s'arrête et je veux lui dire bonjour et on discute un petit peu. Et puis, je reprends la route avec Mathieu. Et le mardi, en reprenant le travail, je vois ce collègue Et il me dit, Gino, tu sais que ces gens vous connaissent. Je fais, comment ils nous connaissent? Ouais, ils m'ont dit qu'ils vous voient souvent en train de vous balader. Vous voyez, on vous surveille. Mais je me suis posé la question. Je me suis dit, ça m'arrive d'aller tout seul. Myriam a plus d'occupations que moi. Et je me promène tout seul. Voilà que ces gens, s'ils me voient, certainement ils vont se dire, mais où est sa femme? Ce n'est pas la même chose que Dieu. Où est Adam et Ève? On doit savoir, pour la première fois de l'histoire, Adam et Ève n'est pas au rendez-vous. Je ne sais pas si on imagine la douleur de Dieu. C'est un cri d'un cœur d'un père qu'il avait une relation intime avec son fils qui se promenait chaque soir. Et là, il n'était pas là. Ce soir-là, il n'était pas là. Je ne sais pas si on imagine la douleur de Dieu. Et c'est là, mes frères et sœurs, où que nous voyons que Adam et Ève ne sont pas des robots au service de Dieu. Non. Ils ont leur liberté de vivre une vie avec leurs désirs et leurs envies. Comme aujourd'hui, ils sont libres. Libres de leur nature. Ça veut dire que s'ils veulent aller plus vite qu'une voiture, ils n'y arriveront pas. Ils ont des limites. S'ils veulent grandir à 4 mètres de haut, ils ont des limites. Et Dieu avait mis des limites dans leur nature. C'était qu'ils ne mangeaient pas ce fruit. Il était interdit de manger ce fruit. C'était pour leur protection. Alors j'ai entendu un psychologue spécialiste dans la relation entre parents et enfants. Et il dit, j'observe que les meilleurs parents ne sont pas ceux qui contrôlent tout, mais ceux qui laissent l'espace à leur enfant pour les surprendre. Il a tout compris, ce psychologue. Dieu laisse l'espace Adam et Ève. Une mère disait, quand mon fils me ment, je le sais, souvent même avant qu'il ouvre la bouche, mais je lui demande quand même la vérité, non pour m'informer, mais pour lui donner l'opportunité de la confesser pour qu'il y ait réconciliation. La question de Dieu, où es-tu? Mes frères et sœurs, c'est que Dieu s'abaisse, égal à Adam et Ève. Il retire sa puissance, sa force, sa grandeur, et il s'abaisse au même niveau qu'Adam et Ève. Il se met égal par amour. Où es-tu? N'est pas une question d'accuser, mais un appel, une invitation de reconnaître ce qu'il a fait. Il recherche une relation et non un jugement. Il l'invite à confesser plutôt que la condamnation. La question montre que Dieu est le Père, son cœur d'un Père. Il est dit l'Éternel, Dieu, en tant que l'Éternel, Il sait toutes choses. Mais il est aussi le Dieu qui est le Père, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui fait miséricorde. La question ne relève pas son ignorance, elle relève tout son amour. Bien sûr que son cœur a été brisé. Il a eu cette douleur. Mais Dieu cherche son fils et sa fille à revenir vers lui. Adam et Ève reconnaissent qu'ils ont fait une grosse erreur et ils se sentent condamnés. Adam et Ève ne connaissent pas encore ce verset. Nous, on le connaît. C'est dans 1 Jean 3:20. Car si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il connaît toutes choses. On connaît la suite. Dieu est juste. Et ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Le péché, c'est la mort. Adam et Ève vont mourir. C'est pourquoi on doit mourir. Mais dans la mort, il y a la souffrance. Tout a été souillé en quelques secondes. En quelques secondes, il y a eu la maladie. Quelques secondes, son jardin, il avait des chardons. En quelques secondes, il a été séparé de Dieu. La mort spirituelle. Mais Dieu leur donne des habits. Et je reviens à ce qu'il a dit Aurélien. Dieu leur donne des habits. Le signe de la réconciliation. Dieu continue de nous poser la même question. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, il te dit, où es-tu ? Non pour s'informer, mais pour te retrouver. Une question d'amour et non de condamnation. Si Dieu vous demande maintenant personnellement, où es-tu ? Qu'est-ce que tu vas lui répondre honnêtement dans ton cœur ? Celui qui n'a pas encore eu une relation avec Dieu, aujourd'hui il te dit, où es-tu ? Il se met au même niveau que toi sur la croix pour prendre ton péché, pour prendre ta condamnation. Tu peux être l'homme ou la femme qui est généreux, qui fait énormément du bien. Dieu te dit quand même, où es-tu ? Il veut cette première relation avec toi. Il veut la réconciliation avec toi. Il veut que tu confesses ce que tu as fait. Ça, c'est pour la personne qui n'a jamais eu de relation. Où es-tu ? Mais toi qui as reçu la grâce de Dieu, cette relation avec Dieu, s'il te pose également cette question, où es-tu ? Où es-tu dans la relation avec ton Dieu ? Dieu cherche toujours une relation avec toi. Il veut te transformer. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes pensées. Il connaît même tes péchés. Il cherche en tout temps la vérité de ton cœur. Il connaît les secrets de ton cœur. Il connaît tout. Et il t'invite à retrouver une relation que tu as reçue dans ce jardin quand c'était cette première rencontre que tu as eu avec lui. Aujourd'hui, il te dit, où es-tu ? Qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Nous voyons cette chute d'Adam et de Ève. Il a eu cette tentation. Il a eu ces doutes. Il a eu cette convoitise. Il a été séduit. Il a été trompé. La femme dit qu'il vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Puis, quand Dieu l'interroge, elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mes frères et sœurs, nous voyons vraiment ces désirs naturels, ces appétits physiques, l'expression agréable à la vue et une convoitise. Et plus tard, Dieu dira dans Exode ce commandement, tu ne convoiteras pas. Alors, souvent, on se dit, c'est la faute de la femme. Non, non, non. C'est la faute de l'homme. Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est l'homme. Alors, je voudrais nous encourager ce matin dans cette lecture de l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 13, et nous lirons les versets 11 à 14. Cela importe d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je reprends ce dernier verset de l'apôtre Paul qui dit « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Paul parle de la chair, ne désigne pas forcément notre corps physique, mais également notre cœur. Pas rien que notre cœur, notre esprit, nos émotions et notre volonté. Le cœur d'Adam et de Ève avait été tenté. Ils ont eu des doutes, de la convoitise. Ils se sont fait séduire. Un désir de satisfaire leur propre chair, qui est leur cœur, leur propre volonté, leur propre émotion à eux et leur esprit. Pourtant, le jardin d'Éden signifie plaisir, luxe, délice. Tout était beau. Mais leurs yeux étaient souvent fixés sur l'interdit. Quand ils se baladaient, parfois ils se baladaient trop près. Et en quelques secondes, il y a eu la séparation. En quelques secondes. Mais si on recule un petit peu en arrière, combien de temps ils ont été séduits? Pour satisfaire leur chair. Revenons dans le texte de l'apôtre Paul. Paul parle à des chrétiens de Rome. Il dit, il est l'heure. C'est une expression qui veut dire, c'est urgent. Le temps est compté. L'heure est maintenant venue. Si Paul parle de son époque, que c'était l'heure. Nous, aujourd'hui, qui a à peu près plus de 2000 ans, combien c'est plus urgent, plus important. Le retour du Seigneur Jésus est plus près que l'époque de Paul. Et nous avons l'occasion de revenir vers celui qui nous appelle. Où es-tu dans la relation? De revenir dans ce jardin d'Éden. Où es-tu? Paul parle du sommeil, qui veut dire un sommeil spirituel. Et Paul crie envers ces chrétiens de Rome, ceux qui ont déjà cru. Dépouillons-nous, qui veut dire que ces croyants s'est donné à tel et tel péché et ils doivent se dépouiller. C'est de confesser dans une repentance sincère et vraie. Paul parle de certains péchés. Il parle des excès et de l'ivrognerie. Et d'autres traductions, excès, c'est orgie, qui vont bien avec l'ivrognerie. Orgie, à cette époque, quand ils avaient une victoire, soit militaire, soit sportive ou autre victoire, c'était la fête. Et midi, on a parlé il n'y a pas si longtemps, même la semaine passée, c'est la fête. Et quand il y a la fête, il y a quelque chose qui suit. C'est de boire et de boire. Mais après boire et boire, c'est le désordre moral jusqu'au sexe et sexe, avec même des émeutes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'ivrognerie, boire, c'est une habitude. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Luxure et l'impudicité qui vont bien ensemble. L'impudicité ou débauche sont la même chose. L'immoralité sexuelle, chambre à coucher. Rien de nouveau sous le soleil. Querelle et jalousie vont bien ensemble, avoir toujours raison. L'amour propre, égoïste, jalousie, envie, charnelle. Rien de nouveau sous le soleil. La même chose qu'aujourd'hui. Tout cela, mes frères et sœurs, nous voulons satisfaire notre chair, satisfaire notre cœur. Bien sûr, il y a les tentations, les doutes, la convoitise, ça nous séduit. Mais c'est pour toujours satisfaire notre chair, satisfaire mon cœur, satisfaire mon esprit, mes émotions à moi et ma volonté à moi. Et Paul dit, marchons honnêtement, arrête de te cacher, marchons honnêtement, Dieu te voit. Paul est en train de crier, non, où es-tu? Il dit plutôt, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, celui qui t'appelle, où es-tu? Te connaît parfaitement. Il connaît tes luttes secrètes. Il connaît tes doutes. Il connaît tes tentations. Il connaît tes convoitises. Il connaît toutes ces séductions qu'il y a jour après jour. Il connaît tous les péchés. Mais il t'aime d'un amour si fort et si vrai qu'il a été sur la croix pour nous. La question est, n'est pas là pour t'accuser, ni juger. Où es-tu? C'est une question du cœur du Père. il nous invite à confesser et à revenir à cette relation du jardin. Dieu est dans une douleur de voir son Fils en train de se cacher. Alors, comment faire ? Ben, Paul nous parle de revêtir des armes de la lumière. Toutes ces tentations, tous ces doutes, ces convoitises, ces séductions, c'est l'ennemi qu'on appelle, comme il a dit Aurélien, Satan. C'est le menteur. Il fait croire qu'il y a un jardin meilleur qu'Éden. Qu'il existe un jardin meilleur que délice, meilleur que plaisir, meilleur de luxe. Adam et Ève, leur plus grande joie était de marcher avec celui qui était cette relation Adam, cette fraîcheur du soir, que c'était bon et agréable. Et leur cœur a été trompé. Leur cœur a été tenté. Leur esprit et leur émotion a été trompée. Dieu était là pour les protéger. Il ne fallait pas manger. Il avait également mis ses armes de lumière. Alors dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 11 et 12, que je lirai rien que le 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Mes frères et sœurs, depuis la chute d'Adam, chaque jour est un jour mauvais pour l'humanité. Et Paul parle de « revêtez-vous ». Ce ne sont pas des armes pour attaquer l'ennemi. Il ne faut pas faire ça. Ce sont des armes pour te protéger contre l'ennemi. Paul parle de se protéger. Et il dit dans Romains, ce dernier verset, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Galates au chapitre 3, verset 27, il nous dit, « Vous tous, frères et sœurs, à nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Nous sommes enveloppés par la vie de Christ. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer de la vie du Christ. Et quand l'ennemi, il te met des doutes, des tentations, de la convoitise et des séductions, il veut une chose, c'est te décourager et te faire tomber. Afin que tu mettes comme Adam et Ève des feuilles de figuier et que tu te caches. Non, ne fais pas ça. Dieu t'a revêtu par ta conversion de cet habit de Jésus-Christ. Ce qu'il te demande, c'est de revivre cette relation que tu as eue, ce vêtement que tu portes. Vis-le vraiment. Marche avec moi. Reprends cette relation avec moi. Où es-tu? Ce jardin de délices, de plaisir, de luxe. En moi, il n'y a pas autre chose. Alors, ce matin, où es-tu? Pourquoi pas cette semaine, au lieu de te cacher derrière toutes ces choses et te mettre ces feuilles de figuier, n'oublie pas que le Seigneur t'a revêtu de sa justice, de son amour. Reviens. Cette semaine, pourquoi pas de revenir et lui confesser, afin que cette douleur du cœur du Père retrouve cette relation intime avec toi. Que Dieu nous bénisse.